Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dimouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bienvenue, vous qui nous suivez sur nos 85 radios partenaires et nos 3 télévisions partenaires à travers le pays, à travers le monde, mais également sur les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui à Tombouctou, la ville mystérieuse, où nous allons parler de la montée des eaux dans la région, comment éviter une catastrophe humanitaire. Depuis plusieurs localités de la région de Tombouctou sont confrontées à une montée des eaux du fleuve Niger cette année. Cette crue inédite depuis 1993, selon des habitants de la région, a submergé des hectares de champs, inondé des quartiers et des villages. Des habitants disent craindre les conséquences sur le plan humanitaire. Une délégation ministérielle s'est rendue la semaine dernière dans la région pour apporter le soutien de l'État aux populations affectées. Quelle explication à cette montée des eaux dans la région? Quels sont les dégâts causés par cette catastrophe? Comment y faire face? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Ils sont au nombre de 3. Mahaman Gobi, représentant de la coopérative Amadia, une coopérative de riziculteurs. Youssouf Mohamed, du service local du développement social. Et le représentant du service des eaux et forêts, le colonel-major Bilali Traoré. Beydari Traoré, le colonel-major Beydari Traoré du service des eaux et forêts. Merci à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand dialogue.
Le grand dialogue.
Alors, chers invités, merci d'avoir répondu à cette invitation. Je voudrais commencer par vous d'abord, Mahaman Gobi. Quelle est la situation actuellement dans le cercle de Tombouctou de cette montée des eaux? Est-ce qu'on constate que les eaux sont en train de redescendre ou bien la situation reste intacte?
Merci bien de m'avoir donné la parole. Et par rapport à votre question, je vais répondre pour dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'eau ne fait que rentrer.
Le micro approche.
J'ai dit que l'eau continue à rentrer et à envahir les champs. Au jour d'aujourd'hui, tous les champs que nous avons, les 620 hectares, sont tous inondés. Donc, on parle de catastrophe. Parce que nous détenons une superficie de 620 hectares.
Ça, c'est pour le cercle de Tombouctou?
Non, pas pour le cercle de Tombouctou. Ça, c'est notre seul périmètre Amadia qui est inondé. Aujourd'hui, c'est le seul périmètre qui est inondé. Vraiment, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de cet espoir-là, c'est Amadia.
Amadia, ça se trouve où? C'est tout dans quelle localité? Le cercle de Tombouctou ou bien c'est toute la région?
C'est à Toya. C'est à Toya. Et c'est un périmètre de toute la région. Parce que tous les cercles et tous les communes se retrouvent au niveau d'Amadia. Donc, vraiment, je vais vous dire que la crue vraiment a beaucoup augmenté. C'est ce qui a amené que l'eau a fait des brèches sur notre digue de ceinture et a envahi carrément les champs. Et ce que j'aimerais vous dire, qu'à partir de cet instant, s'il n'y a pas de mesures qui peuvent vraiment convaincre nos exploitants, même l'année prochaine, on ne pense pas si nos exploitants vont exploiter, comment dirais-je, ces parcelles-là. Voilà.
Mais est-ce que vous savez les localités ou bien la localité qui a été la plus touchée?
La localité la plus touchée, c'est la zone de Toya.
D'accord.
C'est la zone de Toya, parce que Amadia est située à Toya. Bon, en plus d'Amadia, il y a deux autres périmètres, grands périmètres. Saïd de Koriomé et Daï. Donc il y a les périmètres pives aussi, de Toya et de Bofendou. Donc tous ces périmètres-là, ils risquent d'être inondés. En plus, nous, du périmètre d'Amadia qui est inondé, les autres-là aussi sont à risque d'inondation. Si toutefois l'eau continue à monter d'ici là, nous, on n'espère pas que ça soit comme Amadia, mais il y a des risques possibles d'inondation.
D'accord. Colonel Badari, c'est bien ça? Beydari. Ok, Beydari. Ok, colonel-major Beydari, est-ce que cette situation, on pouvait s'y attendre quand on regarde l'évolution des choses ces derniers temps sur le plan environnemental? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une telle situation dans la région, dans le cercle de Tombouctou?
Okay, merci bien pour votre question.
Le micro.
Moi, comme je l'avais dit, moi, c'est le colonel-major Deidari Traoré, directeur régional des eaux et forêts de la région de Mobutu. Bon, vous savez, depuis déjà un certain temps, effectivement, ce qui préoccupe les gens, c'est le dérèglement climatique. D'ailleurs, quand on parle de dérèglement climatique, dès qu'on dit qu'une chose est déréglée, ça veut dire qu'on peut s'attendre à toutes sortes de conséquences. Donc, du fait de ce dérèglement climatique, c'est que le dérèglement climatique, c'est des extrêmes. Ou bien il pleut beaucoup, ou bien il ne pleut pas du tout. Et ainsi de suite. Donc, c'est des extrêmes. Et donc, cette inondation, effectivement, ça ne surprend pas parce que, effectivement, bon, on sait très bien que l'inondation de cette zone n'est pas liée à la pluviométrie même de la zone. Elle est liée à l'eau venant d'ailleurs. Donc, c'est justement dans ces zones qu'il y a eu trop de pluie. Et c'est effectivement cette pluie qui est drainée, cette eau qui est drainée jusque chez nous. Sinon, ce n'est pas la pluie même de Tombouctou qui a créé les inondations de Tombouctou. C'est les eaux du fleuve qui viennent d'ailleurs. Effectivement, ces zones-là effectivement, sont certainement excédentaires à nous. Et c'est certainement ces eaux-là qui viennent effectivement créer des inondations au niveau de Tombouctou. Donc, on peut effectivement s'attendre effectivement à des extrêmes du genre. Autant on peut s'attendre à ce qu'il y ait trop d'eau, autant on peut s'attendre à ce qu'il y ait peu d'eau. Donc tous les deux extrêmes sont possibles.
D'accord. Alors Youssouf Mohamed, vous êtes du développement social. Aujourd'hui, la situation a impacté beaucoup de localités, beaucoup de populations. Est-ce que à ce stade, vous pouvez nous faire une estimation par rapport au bilan de cette situation, de cette montée des eaux?
Ah, ok, merci beaucoup vraiment de nous avoir donné vraiment cette occasion vraiment pour s'exprimer, vraiment pour vraiment parler de cette situation vraiment de montée vraiment du niveau d'eau du fleuve Niger, vraiment qui a eu vraiment des impacts vraiment très négatifs vraiment sur vraiment notre environnement. Vraiment, comme vous l'avez si bien dit, franchement, cette année, vraiment, on a vu vraiment qu'il y a beaucoup vraiment des cercles qui ont été touchés. Ce n'est pas seulement ici à Tombouctou, le cercle de Tombouctou, il y a le cercle de Niafenke, il y a le cercle de Diré, Goundam et Rarous. Vraiment, tous ces cercles vraiment ont été vraiment touchés. Et vraiment, cette inondation vraiment a créé vraiment une désolation vraiment au sein de la communauté. Parce que si vous prenez vraiment le cas de Tombouctou, le cercle de Tombouctou, vous voyez, nous avons vraiment ici le périmètre rizicole d'Amadia de 622 hectares qui le tout est parti vraiment dans l'eau. Et vraiment, ça, c'est le seul, on peut dire vraiment, espoir vraiment de nos communautés. Parce qu'il faut reconnaître ici vraiment que ces communautés vraiment vivent de cette agriculture-là, vraiment vivent vraiment de ces plaines-là. Et voir vraiment que vraiment toute la réalisation vraiment depuis vraiment août jusqu'à là est parti, vraiment ça fait mal et vraiment ça joue vraiment à énormément vraiment sur ces agriculteurs qui leur seul espoir c'est ça, leur champ. Donc il faut nous pouvons aussi noter aussi les périmètres maraîchers aussi vraiment qui ont été vraiment inondés, vraiment que ça soit dans la commune de Alafia, dans la commune vraiment de Lafia et Bouréminali, et même des villages qui ont été vraiment obligés carrément vraiment de quitter leur zone. Si nous prenons même le cas de Tombouctouville même, vous savez qu'il y a ici un secteur qu'on appelle Bokiat. Vraiment, cette année, l'eau est arrivée jusqu'à ce secteur. Et vraiment, il n'y a plus vraiment de 66 vraiment ménages qui ont été vraiment obligés de quitter carrément vraiment leur zone pour être vraiment, pour aller se reloger vraiment dans d'autres zones vraiment où...
66 ménages dans le cercle de Tombouctou.
66 ménager, ça c'est dans la commune, dans la commune urbaine de Tombouctou, okay. À Bokiat.
Okay.
Mais vraiment, c'est plus de 1000 ménages ou bien ça dépasse même ça, vraiment, qui sont vraiment touchés. Vraiment, vraiment, nous avons vraiment un effectif. Pour le moment, ce n'est pas estimé parce qu'il n'y a pas eu vraiment des évaluations au niveau de tous les cercles, au niveau de toutes les communes pour vraiment déterminer le nombre de ménages qui ont été vraiment affectés vraiment par cette inondation. Mais des missions sont en cours. Il y a même une mission du niveau national qui était là tout récemment. Vraiment, les ministres même vraiment à Oumarou Diarra, vraiment était là, vraiment pour venir s'imprégner de la situation, vraiment de cette montée du niveau d'eau du
fleuve. D'accord. Monsieur Gobi Mohamed, oui. On l'a dit, le service de développement social vient de le dire, il y a eu vraiment d'impact sur les populations et des mesures sont en train d'être prises pour les assister. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez cette présence de ces services comme le développement social à vos côtés face à cette situation?
Bon, pour le moment, des constats ont été faits. Donc, les constats ont été faits, mais on attend toujours. Parce qu'avec l'arrivée du ministre, il a donné vraiment son aval aux techniciens vraiment de faire tout de suite la situation et de les envoyer. De faire la situation de tout ce qui s'est passé et de l'envoyer. Donc, on attend cette situation-là. Et par rapport aux vulnérables, comme lui, il l'a touché, donc ils ont tout vu, ils ont tout enregistré. Mais nous souhaitons que ça verra le jour le plus tôt que possible. Parce que c'est des populations meurtries. Depuis les crises jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le même phénomène. Donc c'est pourquoi moi je parle de catastrophe. Parce que nos exploitants là, ils ont vécu beaucoup de crises. Et en plus beaucoup de défaillances, beaucoup de problèmes. Et jusqu'à la dernière situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi je dis et je répète, s'il n'y a pas eu de situation d'urgence, mais l'avenir de ces exploitants sera autre chose. C'est ce que je voulais dire.
Donc ça veut dire que cette montée des eaux, c'était prévisible. Il y avait eu des signaux.
Effectivement, c'était prévisible. Parce que ça ne date pas de cette année aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a 2 ans de cela que le même phénomène s'est passé, mais un peu plus en retrait. Mm-hmm. Mais ça n'a pas affecté tellement les champs.
Mais pourquoi vous n'avez pas pris de disposition?
Bon, les dispositions, avec nos maigres ressources, on ne peut pas vraiment remédier à ce problème. Parce qu'on a demandé une réhabilitation de ce plaine il y a 7 ans, jour pour jour. Et qu'on pensait du jour au lendemain que ces réhabilitations allaient voir le jour, et jusqu'aujourd'hui. Parce que nous, coopératives, nous sommes limités. Nous sommes vraiment limités. Parce qu'il y a des charges qu'on ne peut pas prendre. Parce qu'un périmètre de 620 hectares, je l'ai dit même devant le ministre, on n'a même pas un motoculteur. Des périmètres de grande envergure comme les nôtres doivent avoir des machines, de grosses machines qui peuvent nous secourir en période de problème. Parce que les brèches qu'on a eues l'autre jour, soit on avait des grosses machines ou bien on avait des gros camions, on pourrait remédier au problème. Mais à savoir aussi qu'on avait un projet aussi. Ici, le projet d'Aï Amadia Koreme, qui n'a pas les moyens aussi pour venir vraiment subvenir à nos besoins. Là aussi, c'est le problème. On n'a personne qui peut venir à notre secours. C'est le projet qui doit intervenir. Mm-hmm. S'il y a des situations qui nous dépassent, donc on explique au projet qui vient au secours de nos attentes. Mais avec la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que si ça continue comme ça, vraiment au jour d'aujourd'hui, nos périmètres sont vieillissants. C'est des périmètres qui datent de 35 ans. Il n'y a pas eu de réhabilitation. Et si d'ici l'année prochaine, il n'y a pas eu cette réhabilitation-là, mon cher, pour convaincre vraiment ces mêmes exploitants-là, vu ce qu'il doit y avoir là, je pense que l'année prochaine, nous aurons de plus de problèmes encore pour avoir accès à ces périmètres-là. Voilà.
D'accord, colonel Benari Traoré, est-ce qu'on ne pouvait pas prendre des mesures pour anticiper une telle situation, même si c'est vrai que c'est un phénomène qui est naturel, mais est-ce qu'on ne pouvait pas prendre, que ce soit la population ou bien les services publics, ne pouvait pas prendre des mesures pour éviter que la situation n'atteigne ce niveau?
Effectivement, comme venait de le dire le président de la coopérative, en fait, effectivement, il y a des mesures préventives. Les mesures préventives, c'est d'abord par rapport à la sécurisation même du périmètre. Et ça, c'est effectivement, comme il l'a dit, la digue de ceinture, comme qu'ils appellent la digue maîtresse. Donc, si cette digue-là n'est pas effectivement au point, tous les travaux que vous allez entreprendre à l'intérieur, là, c'est des travaux inutiles. Parce que si vous aménagez vos parcelles, mais ce qui permet même à la parcelle-là de produire, le problème n'est pas résolu là-bas. Donc, c'est comme si vous avez travaillé inutilement. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement des mesures curatives et préventives. Et la mesure préventive, c'est effectivement la réfection de la digue maîtresse jusqu'à hauteur de souhait. Comme il a dit, effectivement, Ce n'est pas un travail qu'on peut faire à la main comme ça avec des dabas. Non, non, ça c'est des grands travaux. Mm-hmm. C'est des grands travaux. Il faut des grosses machines, mm-hmm. des bulldozers, des camions et ainsi de suite pour effectivement faire cette digue là. Parce que c'est une digue là attenante effectivement au fleuve. C'est ça le grand problème. C'est que le périmètre là donne sur le fleuve. Il y a l'autre périmètre là, un peu plus en retrait par rapport à Madia, donne sur le fleuve. Et donc quand il y a une brèche, ah non, ça c'est des problèmes. Hein. Oui. La population n'est pas à mesure effectivement d'arrêter cette brèche-là. Et c'est ça le grand problème. Comme il l'a dit, effectivement, il y a depuis des années déjà, les gens cherchent à réhabiliter effectivement ces périmètres-là. Malheureusement, ça traîne le pas avec toutes les crises que le pays a connues. Donc le démarrage du projet a connu beaucoup de retard. Et finalement, on est arrivé effectivement à cette catastrophe-là. Sinon, si, comme il l'a dit, le projet avait effectivement démarré. Donc ça, c'est les premières choses auxquelles le projet allait s'atteler. Mm-hmm. Malheureusement, il n'a pas démarré. Donc les populations, les maigres ressources de la coopérative ne permettent pas de prendre des mesures préventives, en tout cas pour sécuriser effectivement ce périmètre-là. Et chaque fois qu'il y a effectivement un peu plus, l'eau dépasse un tout petit peu le niveau habituel. Donc c'est l'inondation. Et c'est ça qui est arrivé.
Alors Youssouf Mohamed, vous disiez à l'instant qu'il y a des ménages qui ont été touchés. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises pour assister ces ménages-là?
Ah, merci beaucoup. Vraiment, dès que vraiment nous avons vraiment été alertés par cette inondation vraiment de ces zones-là, directement les services se rendent sur les lieux pour faire l'état des lieux, vraiment pour essayer d'évaluer les ménages qui ont été affectés vraiment par cette inondation. Donc, dès les premières heures, nous sommes partis. Et avec la Direction régionale de développement social, les gouvernorats, vraiment les partenaires, nous avons apporté une assistance, des abris pour les ménages qui ont perdu vraiment totalement leurs maisons, les maisons totalement effondrées. Donc les ménages ont été dotés en abris par l'UNICEF, voilà, par la Croix-Rouge et aussi vraiment d'autres aussi organisations ont pu aussi vraiment apporter vraiment ce qu'ils peuvent apporter, vraiment que ça soit vraiment des vivres, des non-vivres, vraiment même du cash. Il y a même des associations ou bien des personnes vraiment de bonne volonté qui ont essayé aussi d'apporter vraiment quelque chose. Tout cela s'est fait en collaboration avec le développement social. Parce qu'il faut savoir, que c'est le service vraiment qui est habilité vraiment à intervenir dans ces situations. Nous, on fait les plaidoyers auprès vraiment de nos partenaires. Vraiment, on les fait un appel pour vraiment venir vraiment pour qu'ils puissent vraiment assister ces ménages qui sont vraiment dans cette situation de précarité-là.
Alors ça, ce sont les ménages dont les maisons ont été effondrées et tout, mais est-ce que les ménages dont les maisons sont sérieusement menacées, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour celles-ci aussi?
Il y a des...
On pense à les faire déménager déjà ou bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Par rapport à ça, d'abord, vraiment, il y a des sensibilisations vraiment qui ont commencé depuis. Mm-hmm. C'est pas aujourd'hui. On demande vraiment à tous ceux qui sont vraiment dans les bas-fonds, les riverains, vraiment de quitter ces zones vraiment qui peuvent être inondées à tout moment. Mm-hmm. Parce que vous savez que tant que les niveaux d'eau montent, vraiment, il y a risque vraiment d'inondation de certains villages, de certains sites vraiment qui sont vraiment au bord du fleuve. Donc, il y a des sensibilisations qui sont menées à l'endroit vraiment des cercles, à l'endroit des communes, des villages et fractions. Vraiment. Et même, il y a des ménages qui sont menacés, vraiment, qui ont aussi été assistés. Voilà. Nous avons à un moment donné, il y avait même un plaidoyer que les victimes elles-mêmes ont fait pour demander à ce qu'ils soient recasiés. Parce que vous savez vraiment que cette année, l'eau est arrivée à ce niveau qui nous dit que l'année prochaine, l'eau ne va pas dépasser vraiment ce niveau-là. Parce que c'est le changement climatique qui fait ça. Il faut que la population, il faut que notre communauté, vraiment qu'on s'adapte à cela et qu'on évite vraiment les lieux vraiment qui sont inondables.
Alors, Mohamed Gobi, vous, en tant que producteurs, rizicoles, cultivateurs. Est-ce que on peut dire que si vous n'avez pas de l'assistance qu'il faut, ou il faut, on peut craindre des conséquences très graves sur la situation humanitaire dans ces localités touchées-là?
Oui, cher, évidemment, parce que il n'y a rien à dire. Parce que j'ai dit que, évidemment, il n'y a rien à dire. Oui. Parce que si toutefois il n'y a pas de mesures d'urgence et de mesures consistantes, il faut toujours s'attendre à ce genre de phénomène. Ça, je le dis et je le répète. Moi, je suis un homme de terrain. Je suis un homme de terrain et je suis chaque fois dans le lieu en train d'observer ce qui se passe. Parce que je me dis chaque jour, du jour au jour, que nos doléances seront entendues. Puisque aujourd'hui, les exploitants doivent être à l'écoute. Ils doivent être à l'écoute. Parce que nous, là, ce que nous détenons là, c'est un trésor. Ce que nous détenons là, ça doit, c'est des actes qui aident même l'État. Parce que quand nous produisons suffisamment de riz, vraiment, l'État n'a plus à exporter du riz à Tombouctou ou bien dans les autres localités.
Donc vous n'êtes pas écouté?
On n'est pas écouté. On n'est pas écouté. Parce que les réhabilitations en question dont je vous ai parlé tout de suite, si on nous a écouté ou bien on a essayé de vraiment remédier à ces problèmes-là, aujourd'hui, ça n'allait pas nous trouver dans cette situation-là. Je ne peux pas aussi, on est sur des antennes, je ne peux vous expliquer tout ce qui s'est passé. Ça va prendre du temps. Mais si je vous explique, vous savez qu'on n'est pas à l'écoute.
Ouais, mais est-ce que vous...
Une plaine qui date de 35 ans ou bien 40 ans et qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas de réhabilitation. Vous voyez ce que ça fait? Je l'ai dit, nous sommes limités. Les coopératives sont limitées. Parce que les gens disent qu'on est une coopérative, on ne doit pas nous aider tant. Mais est-ce qu'il y a une structure qui n'est pas aidée? Même l'État est aidé. Même l'État reçoit des aides des autres partenaires. Nous aussi, l'État doit être partenaire aux coopératives. Quelque chose qui dépend de nos compétences. Je pense que l'État doit venir nous aider en aide. Les personnes de bonne volonté, les ONG et les partenaires qui sont là. Aucun d'entre eux ne vient à notre secours. Mais c'est extraordinaire. Or que nous représentons la sécurité alimentaire. On parle de sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire, c'est nos plaines-là. Il faut faire la situation des plaines-là. On a plus de 80 000 hectares. Dans la région, 80 000 hectares.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces plaines, ces champs inondés, est-ce qu'il y a moyen de récupérer ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter une menace sur la sécurité alimentaire?
Bon, on peut récupérer le minimum. Mais à savoir que même en récupérant, ça serait les mêmes pertes.
Comment?
Ça serait les mêmes pertes.
Expliquez-nous.
Parce que là où on est maintenant, là, les champs ne sont pas tous à terme. Maintenant, il y a quelques hectares là qui ont repiqué à temps, qui sont mûrs. Tout le reste là, c'est sous l'eau. Maintenant, les gens ne vont récolter que de la paille seulement. Donc, ce qui peut être récupéré est très très minime par rapport au rendement attendu. Très très minime. Parce que sur, quand on parle de 95%, tu vois, de perte, ça c'est vraiment c'est une catastrophe.
Oui.
Je parle comme ça, c'est une catastrophe. Oui. C'est pourquoi j'ai dit, vaut mieux voir que d'entendre. Tout ce qui peut me défier là peuvent aller sur le terrain pour voir ce qui se passe. C'est pourquoi le ministre est parti, il a vu de ses propres yeux. On peut récupérer un peu, mais seulement tout le reste là, c'est sous l'eau. Voilà.
D'accord, colonel Major, cette montée des eaux, en tout cas, à laquelle on n'avait pas assisté depuis un moment, selon des habitants, est-ce qu'on peut tout mettre ça sur le coup de changement climatique ou bien il y a également le comportement de l'homme qui faut pointer du doigt?
Non, vous savez les changements climatiques même sont une conséquence du comportement de l'homme.
Micro.
Donc, je disais tantôt que le changement climatique en lui-même est une conséquence effectivement du comportement des êtres humains sur l'environnement.
Oui.
Maintenant, ce qui est certain, c'est que effectivement les gens aussi ne sont pas très disciplinés dans leur vie quotidienne. Parce que effectivement, quand on va s'installer dans un bas-fond, parce que tu dis que tu n'as pas où habiter, tu vas t'habiter dans un bas-fond. Donc s'il y a des problèmes, tu ne peux en vouloir qu'à toi-même. Bon, maintenant le problème effectivement du périmètre, le président, je crois qu'il a déjà tout dit. Parce que c'est des périmètres effectivement qui datent de très longtemps, qui normalement devaient être réhabilités bien avant maintenant. Maintenant, ça n'a pas été le cas. Et c'est un problème d'anticipation qui nous a conduit effectivement, si on avait anticipé un peu sur tout ça, on n'allait pas vivre cette situation aujourd'hui. Depuis très longtemps, comme il l'a dit, effectivement, le problème était posé. Moi, j'ai assisté en personne, effectivement, à ce nombre de rencontres par rapport au projet de réhabilitation dont il parle. Mais même avant-hier, j'étais en train de poser la question à quelqu'un. Mais ce problème de Amadia Daïkouromé, là, ça ne voit pas le jour jusqu'à présent. Là. Alors que tout le monde sait qu'il y avait la nécessité. Et moi, je suis allé en personne. Je ne suis pas contenté de ce que les gens racontent. Je suis allé en personne pour voir. Pas plus tard que le samedi, moi, j'ai fait le tour de la zone. Et j'ai vu effectivement, comme il l'a dit, moi en tout cas, moi, quand les gens m'ont demandé, je leur ai dit que c'est 100%. Moi j'ai vu 100% de la plaine qui est inondée. Lui-même il a dit 95%. Moi j'ai dit, en tout cas, moi je n'ai même pas vu du riz. Je n'ai vu que de l'eau dans cette plaine-là. Donc je crois que c'est vraiment un problème. Donc il y a effectivement une part effectivement de. L'essentiel effectivement c'est le changement climatique. Mais quelque part aussi, il y a quand même le comportement humain. Parce que même si on s'en tient seulement au fait qu'on n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment, ça c'est quand même humain, là. Ça ce n'est pas le changement climatique. Le fait que le projet n'a pas pu démarrer, là, le changement climatique n'a rien à voir là-dedans. Donc ça, c'est quelque part, il y a une responsabilité humaine. Il y a une responsabilité humaine, même s'il y a des causes naturelles, il y a une responsabilité aussi humaine.
Oui, mais est-ce que les services publics comme l'hydraulique, même s'il n'y a pas de représentant ici, la météo, est-ce que même votre service, est-ce que vous jouez efficacement le rôle qui est de conseiller les producteurs ou les habitants par rapport à ces catastrophes qui peuvent survenir à tout moment?
Non, moi, je sais quand même qu'il y a une plateforme de communication et le directeur et la direction régionale de l'hydraulique effectivement communique les niveaux, les cotes. Et elle a informé déjà avant aujourd'hui, effectivement, qu'on a atteint les cotes à Koriomé. La cote d'alerte avait été atteinte et ça a été dit. Effectivement, tout le monde savait effectivement qu'on a atteint la cote d'alerte. Maintenant, le problème c'est que, bon, il y a quand même des digues, mais seulement ces digues-là ont été délabrées depuis des années. Donc, elles n'ont pas pu avoir effectivement les travaux nécessaires là, pour être réhabilitées. Et donc, l'eau s'est infiltrée. Et tout le monde sait que dès que l'eau s'infiltre, plus tu essaies de même de combattre la pluie, le problème devient plus grave parfois encore. Parce que c'est des trucs qui sont carrément collés au fleuve Niger. Et c'est ce qui rend la chose beaucoup plus compliquée. Si c'était des plaines qui sont un peu en retrait et que le périmètre était alimenté par un canal principal, c'est plus facile à gérer. Mais quand la digue là est attenante au fleuve, ah non, ça c'est beaucoup plus difficile à gérer.
D'accord. Youssouf Mohamed, est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui d'assister toutes ces personnes qui sont dans le besoin aujourd'hui, ou bien vous faites appel à d'autres partenaires?
Vous savez vraiment que on peut, parfois on dit que l'État vraiment est limité dans ses interventions, vraiment, et c'est pour cela aussi vraiment que les partenaires aussi de l'État sont là. Hein? Ils sont au niveau national, ils sont aussi dans cette région. Et on travaille en collaboration avec eux. Parce que les moyens doivent être mis à la disposition de l'État aussi pour aussi essayer de soulager nos populations. Vraiment, certes, vraiment, on est limité dans nos interventions, et c'est pour cela qu'on fait un plaidoyer vraiment vers à nos partenaires pour que vraiment qu'ils puissent vraiment apporter une assistance auprès vraiment de ces victimes-là. Une assistance auprès vraiment de ces agriculteurs. Le président y allait dire, vraiment la plaine est là depuis 40 ans et il n'y a pas eu de réhabilitation. On ne peut que s'attendre à ce genre de situation lorsque vraiment le niveau d'eau est très monté. Vraiment, ils l'ont dit, vraiment il y a même un communiqué qui a été fait pour dire vraiment que cette année le niveau d'eau vraiment a dépassé vraiment les niveaux d'eau des années précédentes. Donc il y a tous ces aspects là qui sont, lorsque ces aspects sont réunis, que ça soit les partenaires, que ça soit l'État, doivent prendre des mesures pour essayer vraiment de soulager, je le dis, vraiment nos communautés. Nos communautés font face à beaucoup de difficultés vraiment dans cette région du Nord. Vraiment, parce que même parfois l'insécurité est là. Même pour aller sur ces plaines-là, c'est des problèmes. Et vraiment, voir que toi, aujourd'hui, tu as mis tous tes moyens, tu as mis ta force, tu as mis ton énergie et vraiment s'attendre à avoir ces résultats-là, ça fait vraiment très mal. Donc, c'est un plaidoyer que j'ai fait. J'ai fait un plaidoyer vraiment auprès des partenaires pour que vraiment qu'ils puissent vraiment venir vraiment pour soulager la peine de nos communautés.
D'accord, il a dit, le ministre a demandé quand il a quitté ici la semaine dernière, à ce qu'on lui fasse le point de la situation. Est-ce que déjà vous l'avez fait?
Vraiment, les travaux sont en cours vraiment et beaucoup de choses vraiment ont été faites. Vraiment, je pense que lui-même, même hier soir à la télé, il a déjà fait certaines programmations, vraiment des 1000 tonnes vraiment pour ces 3 derniers mois. Donc je pense que vraiment qu'il y a des mesures qui sont prises vraiment et l'état des lieux même est fait. Il y a d'autres structures vraiment aussi vraiment qui nous aident dans ces cadres-là pour mieux vraiment remonter aussi l'information au niveau national.
Et alors Mamadou Gobi, des prévisions sont en train d'être faites, des annonces sont faites par les autorités. Est-ce que déjà cela vous rassure, vous qui avez été profondément affecté par cette situation?
Donc, je l'ai toujours dit, vaut mieux voir que d'entendre, quoi. Nous, on attend toujours. En tout cas, jusqu'à présent, c'est des déclarations.
C'est des déclarations,
par-ci, par-là, mais on n'a rien vu.
Quelque chose de concret.
Moi, j'ai même des inquiétudes, là où je suis. Hein, j'ai vraiment des inquiétudes, ça je dis. Hein, parce que là où nous sommes, là, vraiment, on doit avoir des actes vraiment qui sont dans l'immédiat, quoi. Je l'ai dit et je le répète. Parce qu'il faut essayer de remonter vraiment le moral de ces exploitants-là. Mmh. Qu'ils voient du concret. Qu'ils sachent que vraiment, ils sont à l'écoute, comme je l'ai dit là. Et qu'ils attendent tout de l'État et tout des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, là où ils sont, vraiment, ils ont les mains à terre. Parce qu'ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Et pour vous dire que, et je répète encore une fois de plus, si toutefois des situations immédiates ne sont pas faites, donc vraiment, c'est des sérieux problèmes. Quand on perd ces plaintes-là, c'est qu'on a tout perdu. J'ai dit que toutes les populations de Tombouctou et de la région, ce qui les fixe aujourd'hui à Tombouctou, c'est les plaintes-là. Et je le répète encore une fois de plus, même pendant l'occupation, c'est les plaintes-là qui nous ont fixés. En tout cas, quand nous serons vraiment à moins de ces plaintes-là, à savoir que vraiment, ça sert autre chose. C'est à deviner, quoi. Le reste-là, c'est à deviner, vraiment. Ça, je le dis.
D'accord. Colonel Major, une telle catastrophe, quelles peuvent être ses conséquences sur l'environnement?
Bon, sur l'environnement, généralement, vous savez que généralement, dans ces zones-là, effectivement, vous savez que dans ces zones, il y a effectivement, sur le plan de la foresterie rurale, il y a effectivement des populations aussi qui ont des plantations privées. Tout au long, effectivement, de ces périmètres-là, il y a des gens qui ont des plantations privées, qui ont effectivement fait des plantations, aussi qui ont été inondées. Bon, mais on sait que si c'est des vergers, ça aussi c'est perdu, ça c'est certain. Maintenant, si c'est des eucalyptus, s'ils ont un certain âge, ils peuvent tenir l'inondation. Mais si c'est quand même des plantations de production fruitière, des citronniers ou bien des manguiers, autre chose, là, non, ça c'est certain que ça aussi c'est des vergers qui sont perdus. À l'image des champs de riz, là, ça aussi c'est des pertes. Maintenant, dans le domaine forestier protégé,
oui.
Il n'y a pas trop d'impact négatif. Parce que c'est des arbres qui sont déjà effectivement très habitués à ce plan de Ils peuvent survivre. Il n'y a pas trop de risques par rapport au domaine forestier national.
Est-ce que ça peut impacter le domaine de l'élevage, par exemple?
Bon, l'élevage, c'est que. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ça rétrécit, ça diminue les zones de pâturage, par exemple. Parce que toutes les zones qui seront quand même inondées, les animaux ne pourront pas perdre là-bas, même s'ils ont de l'eau à boire. Mais avant de boire de l'eau, il faut quand même manger. Donc c'est quand même des pâturages qui sont perdus aussi, même pour l'élevage. Ah ouais, c'est des pâturages qui sont perdus. Il y a des zones qui étaient très enherbées. Les animaux broutaient là-bas pour aller boire peut-être au fleuve. Mais maintenant, effectivement, c'est des espèces qui sont perdues. C'est des parcours qui sont perdus pour l'élevage.
Ah ouais. Alors, Youssouf Mohamed, il vient de le dire, le domaine de l'élevage, mais aussi de l'agriculture, qui seront fortement impactés par cette situation. On sait que nous sommes dans une zone où les populations, vivent de ça, de l'agriculture, de l'élevage. Est-ce que vous ne vous inquiétez pas déjà des charges que vous aurez de plus dans les semaines, les mois à venir pour assister toutes ces populations, ces communautés qui vivent de l'élevage et de l'agriculture?
Ah,
Vous savez que nous, notre souci, c'est la communauté. On est là pour la communauté, on travaille pour la communauté et on fait tout pour que cette communauté vraiment puisse vraiment se sentir un peu à l'aise. Et lorsque vraiment les maisons sont effondrées, hein, lorsque les champs sont inondés, lorsque vraiment hein, les périmètres vraiment sont carrément partis comme ça, là, on ne peut que vraiment se soucier vraiment pour cette communauté-là. Parce que la communauté vit vraiment de cette agriculture-là. Hein, la communauté vit vraiment de cet élevage-là. Vraiment, nous avons la région du Nord, presque vraiment, une grande partie, c'est des nomades. Hein, et même là où il faut aller vraiment, lorsqu'il y a une catastrophe qui arrive, et si le lieu là vraiment est inondé, si le lieu ne peut pas être occupé, vraiment, ça ne peut qu'amener encore vraiment d'autres conséquences sur cette même communauté-là. Franchement, parler aujourd'hui, comme je l'ai dit, les moyens manquent. Les moyens manquent. Et vraiment, on attend vraiment un accompagnement vraiment pour soulager vraiment cette communauté. Vraiment, c'est des gens qui sont vulnérables sur tous les plans. Je l'ai dit, ils sont vulnérables sur tous les plans. Même parce que même les déplacements, vraiment, ce n'est pas facile vraiment pour ces communautés-là. Donc vraiment, il faut vraiment que des efforts vraiment puissent être vraiment faits pour vraiment soulager vraiment ces communautés-là.
Mais est-ce que vous n'avez pas été un peu attentiste depuis, ça fait quelques mois que cette situation est... en tout cas, tout le monde est alerté par rapport à cette montée des eaux. Est-ce que vous avez pensé à prendre le devant par rapport à ça? Est-ce qu'il n'est pas un peu tard?
Comme je l'ai dit, vraiment, dès le début, vraiment, il y a des alertes. Il y a même, on a un comité au niveau vraiment du cercle, vraiment un comité de gestion des crises et catastrophes. Et vraiment, à chaque fois, vraiment, lors des rencontres du comité, vraiment, on informe. Parce que les élus, vraiment, des communes, vraiment, des cercles, prennent part vraiment à cette rencontre-là. On informe. Il y a même un communiqué qui a passé pour dire que, vraiment, cette année, faites attention, il y a ceci et cela. Mais aujourd'hui, vraiment, on peut dire vraiment qu'on ne peut plus vraiment faire d'autres solutions. Puisque vraiment, les purs est déjà arrivé. Vraiment, les maisons sont effondrées, vraiment, les espaces où il faut recaser les gens, là, tout est occupé par l'eau. Vraiment, la situation actuellement, elle est déplorable. Et vraiment, on parle de la catastrophe. C'est vraiment catastrophique.
Alors, Mohamed Goubi dit qu'ils attendent de voir, les déclarations ne suffisent pas. Est-ce que vous pouvez le rassurer aujourd'hui que ces déclarations seront suivies d'actes concrets?
Comme je l'ai si bien dit, vraiment, si vous voyez que vraiment que les ministres, les présidents même vraiment de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, vraiment, il a dépêché les ministres chargés auprès du ministère de la Santé et du Développement Social, vraiment chargés des PDI, chargés de l'action humanitaire des réfugiés. C'est pour vraiment s'imprégner de cette situation-là. C'est pour voir ce que eux, vraiment, ils peuvent vraiment apporter vraiment pour soulager vraiment cette communauté. Mais je dis vraiment au président vraiment que voilà, les études sont en cours. Vraiment, on veut vraiment vite apporter. Le ministre, il est venu. Vraiment, le premier vraiment apport qu'il a fait, il a fait des gestes ici, vraiment auprès vraiment de certains ménages vraiment victimes d'inondation. Et il est parti aussi sur les lieux pour voir. Donc, je pense que la première aide, c'est d'abord de s'imprégner de la situation pour voir vraiment de quoi ces gens-là souffrent, de quoi ces gens-là ont besoin pour prendre des mesures, pour les mettre à la disposition de ces gens-là.
Alors, Mohamed Goubi, vous aussi, en tant que producteur, il y a des conseils, des alertes qui sont faites par certains services, la météo, l'hydraulique. Est-ce que vous tenez compte de ces conseils-là pour essayer de vous mettre à l'abri de certaines situations?
Ok, merci bien. Voilà, tu es revenu à une pensée que je voulais dire même. Moi, j'ai dit que pour chaque situation, il faut créer un conseil de crise, une commission de crise par rapport à la situation avant qu'elle n'arrive. Et c'est que moi, je n'ai jamais participé à ça. Et je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que quand vous savez que l'année, il y a des étapes, il y a des problèmes qui peuvent surgir dans l'année, vous devez au moins nous appeler pour nous dire que, ouais, que attention, cette année-là, faites attention.
On ne fait pas ça?
Non, moi, je n'ai jamais assisté, comment dirais-je, à une situation de ce genre.
Voilà. Mais ce n'est pas quand on est noyé qu'on veut nous dire que les eaux doivent monter. Bien sûr que, qu'on dise qu'il y a des informations, mais des informations qui passent de bouche à oreille, mais qui ne nous est jamais parvenues. Donc c'est vraiment autre chose. En tout cas, nous sommes les premiers acteurs du développement ici à Tombouctou, par rapport à nos périmètres-là. Donc s'il y a des situations, on sait très bien qu'il y a des gros périmètres qui sont là. Et quand il y a problème, comme le problème de ce genre qu'on est en train de vivre aujourd'hui, vous devez nous approcher bien avant cette inondation pour nous dire qu'il y a attention. Il faut qu'on se donne la main pour essayer de consolider les diguettes et autres, parce qu'il risque d'avoir d'inondation. Donc ça, ça doit être fait. Par rapport à toutes les situations, ça doit être comme ça. Chaque fois, quand il y a des alertes ou bien des avant-alertes, on doit consulter des commissions de crise qui viennent nous démarcher. C'est pourquoi j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, on est des techniciens fiables qui se rapprochent de nous et qui nous faisons l'état des lieux chaque année pour vraiment prendre des mesures d'urgence ou des mesures de sécurité avant que les producteurs même s'engagent sur les périmètres. Comme je l'ai dit, on a une plaine vieillissante. Je vous le répète aujourd'hui. Et chaque année, d'année en année, c'est-à-dire qu'on se met la corde au cou pour essayer d'exploiter, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. Parce qu'on se dit que nous sommes à l'écoute, je reviens toujours sur le même mot, que chaque année, qu'il y aura cette réhabilitation-là. Donc, il vaut mieux faire quelque chose que de rester. C'est pourquoi on a pu vraiment faire 7 ans, jour pour jour, vu tous les problèmes que nous avons. Tout ce que nous gagnons dans les miettes là, par rapport aux redevances, on investit dans les entretiens. Parce que nos canaux ne tiennent plus. Nos pistes ne sont plus... on ne peut plus avoir accès à nos pistes. Même comme on l'a dit, nos digues sont toutes la même chose.
D'accord.
Donc c'est pourquoi j'ai dit que vraiment, il vaut mieux prévenir que de guérir.
D'accord. Voilà. Alors, mieux prévenir que de guérir, colonel Major, comment prévenir une telle situation? On ne le souhaite pas. Si toutefois ça survenait encore, qu'est-ce qu'il faut faire dès maintenant pour ne pas vivre cette même catastrophe?
Moi, je crois que les différents intervenants ont eu l'occasion effectivement de dire déjà ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est d'être proactif. C'est-à-dire effectivement, il ne faut pas attendre que le feu arrive effectivement devant ta porte là pour chercher maintenant, on commence à chercher de l'eau. Donc depuis, on sait effectivement déjà que les risques d'inondation là ne sont jamais écartés, quelle que soit l'année. Maintenant, dans la pratique, on peut trouver des années où il n'y a pas d'inondation, il y a des années où il y a inondation, mais il faut toujours se mettre en l'idée qu'il pourrait y avoir des problèmes. Donc si on sait qu'il peut y avoir des problèmes, donc il faut anticiper effectivement des solutions. Donc c'est ce qu'il faut faire, il faut anticiper avant que les problèmes ne surgissent, il faut anticiper. Anticiper veut dire effectivement qu'il faut refaire carrément la digue maîtresse de ces périmètres-là. Si ça c'est déjà fait, on aurait fait un grand pas vers la sécurisation de ces périmètres-là. Mais tant que ça c'est pas fait, mais ils ne sont jamais à l'abri de risques, ça c'est très clair. Quoi qu'on fasse, quel aménagement qu'on va faire à l'intérieur, si ce problème de digue de ceinture n'est pas réglé, on aurait pris des risques. Donc ce qu'il faut faire, donc, c'est effectivement de faire en sorte que ces périmètres soient sécurisés effectivement par des digues maîtresses qui répondent aux normes. Qui répondent aux normes, surtout qui répondent, parce qu'il ne s'agit pas de faire aussi une digue. Il s'agit de faire des digues effectivement qui répondent aux normes et qui peuvent tenir effectivement quelle que soit la pression de l'eau. Tant que ça n'est pas fait là, non, on n'est pas à l'abri.
D'accord, cela est bien compris. Anticiper sur les solutions dès maintenant, et c'est ce qui va mettre fin à ce grand dialogue d'aujourd'hui qui parlait de la montée des eaux à Tombouctou, comment éviter une catastrophe humanitaire. Nos invités étaient Mahaman Gobi, représentant de la coopérative Amadia, une coopérative de riziculteurs, Youssouf Mohamed du service local du développement social, et le colonel major Beydari Traoré, chef du service des directeurs régional du service des eaux et forêts. Ce débat a été présenté par Sikou Gadjigo. Aux opérations techniques, il y avait Gadi Kanté, assisté d'Ousmane Yalibouli. La coordination a été assurée par Mohamed Outouré. Merci à toutes et à tous et à la prochaine pour un autre numéro.